Montrer les coulisses des tiers-lieux, c'est la mission que l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, a confiée à l'équipe du WIP. Pour comprendre comment on monte un tiers-lieu, comment il fonctionne au quotidien, quels partenariats se créent entre des acteurs publics, privés, associatifs, citoyens, pour faire vivre ces projets. Nous allons aller visiter 7 tiers-lieux, labellisés par l'État Fabrique de Territoires, tous très différents. Nous allons aller à la rencontre des gestionnaires des tiers-lieux, des partenaires de projets, des utilisateurs, des élus, des techniciens, qui vont nous raconter comment le projet s'est construit, comment il est perçu, comment il fait évoluer les acteurs du territoire et comment il transforme les façons de faire. Ensemble, on va parler des difficultés et des succès, de la genèse à la transmission des projets. Dans les coulisses des tiers-lieux, on met en lumière ce qu'on ne voit pas pour vous aider à mieux comprendre ces lieux si singuliers. Épisode 1, l'entrepôt. Pour ce premier épisode, on se rend à Bourges et plus précisément dans un tiers-lieu d'expérimentation et de création artistique appelé l'entrepôt. Nous avons pu rencontrer deux salariés de l'association, un élu et un usager du lieu, pour comprendre par ses regards croisés comment le lieu fonctionne de l'intérieur. Pour commencer, nous allons rencontrer la co-directrice du lieu, Isabelle Carlier.
Alors, sur les activités, nous sommes vraiment un lieu culturel pluridisciplinaire, dans la mesure où, en fait, on recoupe un certain nombre de champs disciplinaires qui sont l'art contemporain, le cinéma, le multimédia, la musique, la danse, le théâtre, la performance et nouvellement les biomédias. Et ces activités se concrétisent à travers des accueils en résidence, de la production, de la diffusion, donc type exposition, concert, ce genre de choses, et de la transmission à travers des ateliers.
Nous avons également rencontré Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la culture. Il nous raconte le lien entre la ville et l'entrepôt.
On est très intimement liés, parce qu'ils occupent un lieu municipal qui appartient à la ville, mais on est très liés et très en phase avec ce qui s'y fait. C'est aujourd'hui un des lieux fondamentaux de l'art contemporain, des musiques actuelles, des arts numériques, visuels, à Bourges, dans le département et dans la région centre. Et donc la ville s'appuie sur ce lieu, comme sur la Maison de la Culture, comme sur le Conservatoire, comme sur d'autres lieux pour faire vivre une politique culturelle.
Autre acteur du tiers-lieu que nous allons interroger, c'est Étienne Cadic, un usager multicasquette de l'entrepôt qui commence par nous raconter sa découverte du lieu et son intégration.
Je débarque à Bourges, donc je ne connais personne, et j'ai envie de retrouver un petit peu un univers artistique. Je me dis, je vais faire un petit crochet par l'entrepôt pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Après la visite, on commence à discuter, moi de mes projets, et eux de ce qu'ils font, et je comprends très vite que j'ai beaucoup de chance de tomber sur ce lieu et qu'il va y avoir pas mal de choses à faire avec eux.
On retrouve à nouveau Isabelle, la co-directrice du lieu, qui termine de nous dresser la fiche d'identité de l'entrepôt.
Nous sommes dans la périphérie proche du centre-ville de Bourges. Nos locaux sont des aménagements d'une ancienne entreprise, qui était une entreprise de bâtiment, qui date des années 20. La surface est d'environ 5000 m² et nous sommes une association loi 1901, qui est la fusion en fait, de deux associations, Bandimage et Métrope, et donc l'association telle qu'aujourd'hui existe depuis 2020. Métrope date de 84 et Bandimage date de 91. Les deux associations ont toujours emblayé les histoires alternatives, la question des marges, et Métrope très fortement l'histoire punk et queer que Bandimage a rejoint aussi, par exemple, et de s'intéresser aux minorités.
Vous l'aurez compris, l'une des particularités de l'entrepôt, c'est son histoire. Ce lieu et ses associations fondatrices Métrope et Bandimage n'ont cessé d'évoluer pour se pérenniser et aujourd'hui employer une vingtaine de salariés permanents qui travaillent main dans la main et semblent s'être plutôt bien organisés. Revenons sur la fusion pour comprendre comment s'est passée cette restructuration.
La plus grosse difficulté pendant un an, en tout cas, ça a inquiété beaucoup à la fois vers l'extérieur et à la fois en interne. Parce que, évidemment, schéma de fusion égale modification, changement. Ensuite, ça a signifié reconstituer des équipes. Et donc de repositionner chacun par rapport à ce projet-là. dans un nouvel organigramme. Et le principal changement qui a eu lieu, c'est de répartir les responsabilités. C'est-à-dire qui est responsable de quoi, qui pilote quoi. Globalement, ça a plutôt été très bien compris, perçu. Après, c'est toujours pareil, hein, pour les plus anciens, c'est très compliqué. Pour ceux qui viennent d'arriver dans l'équipe, c'est plus facile parce que voilà, ils intègrent tout de suite le nouveau schéma de travail. La deuxième chose qui était importante à faire, c'est que qui dit fonction, métier, responsabilité, on répond à une convention collective. Donc ça a été aussi de remettre à plat les fonctions de chacun par rapport à la convention collective. Donc ça a été quand même un coût, mais ça je peux le dire, hein, de plus de 100 000 euros. Pour pouvoir remettre à plat un peu le schéma.
Donc ça, ça veut dire que c'est la partie un peu interne.
Et ça, c'est la partie interne.
En externe, comment est-ce que ça se passe?
Et en externe, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils ont trouvé ça plus lisible. Ensuite, ils ont vu ça plutôt d'un bon oeil parce qu'ils avaient une confiance dans les deux équipes et que pour eux, ça leur simplifiait sacrément la tâche d'avoir une association et pas deux. Et globalement, comme on a gagné aussi un peu en force, quelque part, ça nous a permis aussi d'intégrer beaucoup plus de commissions, beaucoup plus d'instances de travail, d'être consultés aussi beaucoup plus. Bon, tout en étant, tout en préservant quand même nos zones de militance, parce que voilà, parce qu'on a aussi ce caractère-là. On est toujours un peu à mi-chemin entre les alternatives et l'institutionnalisation.
D'après Isabelle et Sandra, la fusion en interne s'est plutôt bien passée. Et depuis cette restructuration, l'équipe s'est donné du temps. 3 ans exactement, pour continuer le travail de communication en externe. Nous avons demandé à Étienne Cadic et Yannick Bedin comment eux perçoivent cette évolution.
On sent que c'est un lieu à la fois en pleine mutation, mais qui y a un socle, on va dire, de bénévoles, enfin de gens, de bénévoles, de salariés qui gravitent autour, qui est extrêmement solide. Et je pense que cette interaction, ce lien qui s'est créé, il est pas du tout, il est extrêmement précieux. C'est pas du tout quelque chose qui se construit rapidement. Et donc il faut réussir à conserver cette synergie, conserver ce lien. Et je pense que c'est un vrai enjeu du lieu actuellement, de pas perdre trop son identité et de réussir à cultiver ce noyau et vraiment ce tissu social qui est extrêmement précieux.
L'entrepôt a évolué, hein, c'est un endroit qui a évolué, c'est une friche qui a évolué, qui est très vite rentrée dans une logique de professionnalisation, mais il y a quand même eu des évolutions, il y a eu un développement, il y a eu des travaux, il y a une équipe qui s'est étoffée, qui s'est complètement professionnalisée, tout ça. Il y a une vraie ouverture de l'entrepôt sur le territoire, avec une vraie volonté de travailler avec d'autres partenaires.
Comme vient de l'expliquer Yannick Bedin, l'entrepôt est dans une dynamique d'ouverture, et celle-ci passe notamment par l'entrée dans des réseaux comme celui des fabriques de territoire. Sur cette question de labellisation tiers-lieux, je questionne à nouveau Isabelle Carlier et Sandra Aimonet, également salariée de l'association, qui vient de nous rejoindre.
On a demandé cette labellisation, on a demandé à un moment donné à recevoir des fonds à ce titre-là parce que quelque part on l'est depuis déjà très longtemps et que ça faisait sens d'aller vers ce type d'appellation et parce que aussi ben, ça nous permet d'amener des fonds et des moyens et d'être identifié et d'intégrer des réseaux. Les Métropes et Bandimages ont créé depuis 2000 un ECM, un espace culture multimédia. Ce qui fait qu'on est rentré depuis cette époque-là dans tous les réseaux des ECM, des espaces culture multimédia, des EPN, dans des espaces publics numériques. Ce qui fait qu'on était en lien avec beaucoup de structures qui ont cette connotation tiers-lieu ou espace numérique ou lieu pour la démocratisation par l'outil numérique ou ce genre de choses.
Et alors justement, la labellisation, donc tu parlais de l'apport que ça pouvait avoir en termes de réseau, aussi au niveau oui. économique, est-ce que ça a changé la nature de vos relations avec la collectivité, par exemple
Les relations avec la collectivité, je ne sais pas si ça la change, mais en tout cas, ça nous demande de faire un énorme travail de pédagogie vers les collectivités. Parce qu'en fait, la compréhension de ce qu'est un tiers-lieu, l'économie que ça génère, les systèmes de production, ça, il y a un vrai travail de pédagogie parce qu'en fait, c'est très abstrait pour la majorité des élus et des équipes même techniques des collectivités.
Et comment vous faites alors pour faire de la pédagogie à ce niveau-là, leur faire comprendre un peu le fonctionnement, l'organisation, tout ça?
Plutôt que d'être dans des exposés théoriques, de contextualiser des rencontres, de voir qu'effectivement il y a pas mal de réseaux qui se croisent, de centres d'intérêt, comme si on était un peu sur une carte au croisement en fait de plusieurs lignes, et puis en acceptant aussi le temps long. Donc pas forcément être... parce qu'il peut y avoir aussi des effets de mode, genre, enfin, surtout avec les tiers-lieux, enfin, c'est un peu à la mode, mais de montrer aussi comment les choses se construisent dans le temps et puis dans des relations de confiance qui s'augmentent en fait, tout simplement. C'est un travail de fourmi, mais c'est un travail justement plutôt de construction que de simple conviction.
On va parler de tiers-lieux pour l'entrepôt si vous voulez, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans à la fois dans une économie et dans un fonctionnement qu'a inventé le tiers-lieu tel qu'on le définit, c'est-à-dire un lieu de circulation d'idées, de personnes, d'expériences, de pratiques, d'échanges de pratiques, un lieu très ouvert qui accueille des artistes plus ou moins confirmés, qui fait de l'accompagnement. Donc si vous voulez, après, bon, on peut mettre les étiquettes qu'on veut sur les endroits, mais en tout cas, pour moi, ça ne change pas grand-chose.
Pour être transparent, Yannick Bedin connaissait déjà l'équipe et la démarche multidisciplinaire de l'entrepôt avant de prendre son poste d'élu à la culture. Cela facilite grandement les choses dès lors que le tiers-lieu et la ville doivent collaborer ensemble. Mais est-ce le cas pour les autres acteurs de la collectivité?
La ville donc est beaucoup plus à l'aise, évidemment, avec des choses qui sont montrées à la Maison de la Culture, par exemple, parce que ce sont des formes déjà connue, enfin, qui est déjà intégré par un corps, un esprit, voilà, on va voir une pièce de théâtre, en particulier si c'est du Shakespeare, c'est bon, c'est intégré à l'imaginaire et au culturel de tout le monde. Ici, on arrive avec des choses très expérimentales qui peuvent aussi parfois aller vers des... On peut toucher au domaine du médical, on peut toucher au domaine du corps, voire même de la sexualité parfois, donc c'est plus compliqué. Et donc évidemment, pour des élus ou pour une ville, quand on ne maîtrise pas ou qu'on est soi-même déconcerté, c'est pas évident d'aller par ailleurs le défendre ou d'en parler ou de se placer ou de se situer. Donc on le voit. Bon, mais ça fait partie du jeu. Parce que, et on est aussi très conscient de ça, donc on est reconnu dans le sens où on est reconnu comme espace de recherche et d'expérimentation. Par contre, c'est clair qu'on doit pouvoir convaincre. Et on ne peut pas forcément, à part des exceptions un peu comme Yannick, on ne peut pas forcément compter non plus sur tous les élus pour être en capacité d'expliquer, de dire qui on est, ce que l'on fait, et de le défendre. Voilà. Donc on est toujours en train de se défendre, hein, d'une manière ou d'une autre. Ceci dit, on parle des élus, mais si on doit parler de la ville, il faut parler des services. Et à l'inverse, avec les services, on a plutôt, peut-être parce qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on a tous un moment, on a pu travailler un moment ou un autre avec chacun d'entre eux ou d'entre elles, mais globalement, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt constructif. Et en tout cas, moi, d'expérience, je suis rarement retrouvée dans une situation de blocage, par exemple. Voilà, il y a eu des difficultés, certes, mais des situations de blocage, par exemple, on n'en a jamais vraiment... Enfin, moi, j'en ai pas vécu, en tout cas.
Après avoir entendu tous ces témoignages, on comprend que les clés de succès d'une bonne relation entre la collectivité et le tiers-lieu, c'est la pédagogie, l'acceptation du temps long et la confiance. Et ce sont tous ces éléments qui rendent fluides les échanges entre les deux parties, comme nous l'explique Yannick Bedin.
Si on accompagne, on soutient. Les professionnels, ils sont ici. Ils savent mieux que les politiques et les élus les axes à poursuivre. Voilà, on ne rentre en aucune manière ni dans les programmations, ni dans le programme, ni dans les axes de développement, parce qu'il nous semble que ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens de l'enrichissement des pratiques, l'ouverture sur la ville, à des publics différents. Et sur des segments artistiques qui sont certes pointus souvent, mais qui méritent d'être partagés. Et donc il faut des outils comme ça pour les partager. Parce que ça nous semble être légitime sur le territoire et complémentaire de ce qui se fait ailleurs. Et ça offre en fait une vraie diversité, quoi. Enfin, une vraie originalité, une vraie diversité.
Cette originalité dont nous parle Yannick Bedin, elle vient de cette ouverture à l'expérimentation, mais aussi grâce à ce côté multidisciplinaire, où les pratiques se croisent et s'entremêlent. Isabelle et Sandra nous expliquent maintenant pourquoi et comment cela s'organise autour du volet numérique.
Et alors après, d'un point de vue très prosaïque et un peu historique, la question du numérique, finalement, elle s'inscrit dans les activités effectivement artistiques, comme un peu n'importe quel médium ou média.
Mais c'est vrai qu'on a, bon, on n'a aucune fascination ici pour le numérique en tant que tel.
Au contraire, on essaye même de démystifier. Ce qui est très très important ici, c'est de sortir justement d'une espèce de fascination technologique, d'en comprendre les usages, les processus, les procédés, les outils, les techniques, etc., de façon à les rendre le plus appropriables possible, et parce qu'on les rend le plus appropriables possible, d'éveiller les consciences aussi par rapport à ce que c'est, ce que ça représente, comment c'est construit, et évidemment de travailler à une éducation aux outils numériques comme on fait l'éducation à l'image. Et donc comme on a toujours travaillé au décryptage d'une image comme outil de propagande, on travaille de la même manière la question des outils numériques, comme qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais ça passe par la pratique et l'approche artistique.
Un des autres acteurs qui gravitent autour des tiers-lieux et qui les font vivre, ce sont les porteurs de projets, les bénévoles. Étienne Cadic, il est comme beaucoup d'autres, les deux à la fois. Il nous raconte comment s'est passé son accueil et comment sa perception du lieu a évolué depuis son intégration.
Donc j'envoie une maquette de mes projets à Isabelle, qui me propose du coup de venir régulièrement sur place pour monter, réfléchir à mes projets. En fait, en gros, d'avoir un coin de table à moi, mais qui va me permettre de mieux comprendre comment l'entrepôt fonctionne et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir m'apporter et qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter. Donc que cette relation de confiance se fasse vraiment petit à petit, sans qu'il y ait d'enjeu important au début, juste moi j'avance mes projets et puis eux, ils continuent à faire leur vie.
Aujourd'hui, est-ce que tes projets sont plutôt soutenus ou tu te retrouves un peu confronté à des barrières que tu n'avais pas forcément anticipées en venant ici?
Alors c'est extrêmement intéressant puisque au début on arrive un peu avec ses grands souliers en se disant j'ai une super idée, venez m'aider à la réaliser. Et je me suis rendu compte très vite que la structure, enfin l'entrepôt n'allait pas m'aider au début, mais allait pouvoir m'aider par la suite. Ce qu'elle allait pouvoir m'apporter, c'était plutôt une sorte de compréhension du monde et d'être mis en relation avec beaucoup de gens, mais j'allais avoir besoin d'avoir un gros travail d'écriture beaucoup plus soutenu. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent à l'entrepôt, à la fois qui sont salariés ou bénévoles, c'est des gens qui ont beaucoup d'affinités artistiques, qui ont tous leurs projets perso. Donc ça fait énormément de gens qui ont énormément de choses à penser, qui ne sont pas forcément disponibles, ou en tout cas qu'on n'a pas envie de solliciter pour rien. On a envie de les solliciter quand on a quelque chose de sérieux et de robuste et qu'on a envie de les entraîner vers ça. Donc arriver avec une idée et juste la lancer comme ça en espérant que ça se fasse tout seul, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et il faut vraiment réfléchir à quelque chose de béton pour pouvoir leur donner envie et de s'investir sur ça. Donc moi, effectivement, vis-à-vis de comment je m'étais projeté au début et comment ça s'était déroulé, tout avait l'air extrêmement fluide en disant « Oui, viens, pas de problème, viens travailler sur place. » Je pensais que beaucoup d'opportunités allaient pouvoir se créer tout de suite. Et je me rends compte qu'il va falloir quand même fournir un gros travail préalable avant que ça puisse se faire. Mais tout en gardant à l'esprit que c'est réalisable. Il y a aussi cette promesse-là qui fait du bien, qui est intéressante, mais voilà, ça demande quand même beaucoup de travail en amont.
Dans cet épisode, nous avons pu découvrir qu'au fil des années, l'entrepôt a su trouver son équilibre à mi-chemin entre les alternatives et l'institutionnalisation. L'association a su répondre aux enjeux d'évolution et de pérennisation grâce à son sens de l'accueil, grâce à l'acceptation du temps long et à une volonté pédagogique pour se faire comprendre et donc bénéficier de la confiance de ses partenaires. Un grand merci aux intervenants et intervenantes Étienne Cadic, Isabelle Carlier, Sandra Aimonet et Yannick Bedin. Dans les coulisses des tiers-lieux, on se retrouve dans un mois pour explorer une autre thématique qui nous permettra de mieux comprendre ces terrains fertiles propices au développement des territoires.